With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Tu le défonces un peu aussi, hein? Parce que toi, tu t'es bien fait chier.
Ah ouais, t'inquiète.
Ah, moi, j'aime bien, moi. Ouais.
C'est sérieux?
Presque autant ému que Monk.
Wouah!
Votre copain Jack Burton, il regarde l'orage bien droit dans les yeux et il lui dit
« T'es si tocard que tu passerais pour un chef-d'œuvre de l'art moderne !»
Madame, je ne n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Merde.
Ce sont les gars qui se prétendent normaux qui vous déçoivent. Les dingues, ça ne fait jamais peur.
Elle nous connaît dans les coins, la pangine.
Bonjour et bienvenue dans Saltemps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Moi c'est Clémence et chaque semaine avec mes acolytes, on fait le point sur l'actu ciné en se penchant sur la sortie du moment, que ce soit en salle ou sur les plateformes de streaming. Avec moi aujourd'hui pour cet épisode, j'ai le plaisir de retrouver Stéphane.
Salut Clémence.
Et Julien.
Salut Clémence, ça va Clémence?
Ça fait
longtemps
que
je n'ai pas vu. Comment ça va d'ailleurs?
Ça fait un bon moment.
Bonne année Clémence.
Bonne année Julien. Bonne année à tous et à toutes. Et on est aussi avec Alain à la technique.
Salut Clémence.
Et c'est toujours la Tex qui s'est occupée de l'habillage sonore. Cette semaine, on vous parle de Minuit dans l'univers, le dernier blockbuster Netflix sorti le 23 décembre. On retrouve George Clooney devant et derrière la caméra pour un film post-apocalyptique qui se passe en 2049. Il y incarne Augustine, un scientifique basé en Arctique. Augustine qui fait son possible pour établir un contact avec le vaisseau spatial Heather. L'équipe d'astronautes qui se trouve dans ce vaisseau tente de revenir sur Terre après une mission de 2 ans sur K23, une planète potentiellement habitable. Oui, mais la Terre vient d'être ravagée par de multiples radiations et Augustine va donc tout faire pour empêcher l'équipage de rentrer à la maison. Ce film, c'est une adaptation d'un roman qui a connu un certain succès, un Good Morning Midnight de Lily Brooks Dalton. Alors, nos chroniqueurs, qu'est-ce qu'ils en pensent, hein, avec la critique express? Si vous deviez donner votre avis sur le film en un seul mot, ça serait quoi?
Non, mais je...
Le mec qui zappe à chaque fois.
Non, mais c'est clair. Cucurbitacé. Parce que c'est bien, tu peux faire. Il fait froid, on peut faire. Moi j'aime bien les cucurbitacés. Des cornichons à la russe, par exemple, c'est très bon avec un petit whisky.
Il faut le baquet derrière ton tombeau.
Je sais pas.
Tu m'as dit que tu l'avais trouvé plutôt pas mal, que ça t'a plu.
Non, je trouve c'est. Alors, caca.
S'il fallait que tu le cases.
Mais je sais pas, Clémence. Je serais plus.
T'es plus à l'aise pour faire des très grandes
phrases. Ennuyeux. Voilà.
Ennuyeux.
C'est mieux que. Moi j'aime mieux curcure. C'est un beau mot, ça sonne bien.
On essaiera de trouver un film qui colle avec ça. Hein,
ouais, c'est
promis,
clair.
S'il y a le grand cornichon mal au sol,
ah, voilà,
on t'invitera
ça.
Exprès pour en parler. Stéphane, toi, t'en penses quoi?
Nespresso.
Nespresso, très bien.
Ah, voilà. Tiens, il n'y a pas que moi.
Nespresso, non,
pas que moi.
Ça, c'est la quantité de choses qu'il a dû boire pour
exactement,
rester éveillé
c'est
devant.
Exactement ça, quoi. Parce qu'en fait, tu te fais chier comme un rat, effectivement, devant ce film. Je ne sais pas si tout le monde sera d'accord avec nous, mais en fait, il fallait que ce soit dit pour la critique express.
Et bah, c'est
donc,
parfait.
Nespresso.
Ça donne le ton et on commence tout de suite. Alors, Nespresso, donc tu as bu des litres de café.
Oui, et puis c'est un peu pour me tailler un peu la fiole de payer la fiole de George Clooney, quoi, puisque en fait j'ai l'impression que ça fait que quelques années qu'il fait que ça maintenant, si tu veux, genre des pubs pour Nespresso, donc voilà. Mais c'est vrai, ça fait 5 ans qu'il a pas tourné un film en tant qu'acteur.
Oui, mais moi, c'est un truc que je respecte, ça. Hein, plutôt, c'est un truc... Parce que moi, je trouve qu'il est, il est assez bon ton et facile, en fait, d'attaquer Clooney. Moi, je trouve que c'est un mec qui est plutôt droit... j'aime pas le film, hein, du tout. Hein, mais par contre, c'est un mec qui est plutôt droit dans ses bottes. C'est-à-dire qu'il se fait rare. C'est pas un mec qui retombe dans les franchises. Bon, il l'a fait au tout début de sa carrière, mais ça, tu vois, c'est complètement le genre de mec. À mon avis, Marvel, ils ont dû le contacter, mais 10 000 fois, Marvel ou DC, quoi. Tu vois, il aurait pu faire le père de Superman, par exemple. Il aurait pu faire plein d'autres trucs, quoi. Tu vois, Clooney, tu es là-dedans. Quand il choisit des films, c'est comme le Brad Bird, qui a un truc, il faut y aller quand même, tu vois, faire La Poursuite de Demain et tout. Et même sur sa carrière de cinéaste, moi, j'ai l'impression que le mec est plutôt droit dans ses bottes et qu'il cherche quelque chose. Oui, après, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il trouve, ça, c'est un autre débat.
Mais en attendant, ça fait 15 ans qu'il fait des pubs Nespresso aussi, où il joue une carte espèce d'une espèce de carte glamour.
Ça, c'est pour l'Europe en plus, tu vois. C'est un truc qui n'est pas exploité aux États-Unis.
Disons que voilà, c'était une pique sur le truc, tu vois. Moi Clooney, j'avais énormément d'espoir en tant qu'acteur quand j'étais plus jeune et quand il a débuté, quoi. Je trouvais que c'était un excellent leading man, tu vois, qui en plus avait, si on sort des franchises à la Batman et Robin ou des trucs comme ça, etc., etc., même si Julien ne sera pas d'accord, tu vois, si on sort de ça, il y avait des choix plutôt intéressants, tu vois, en tant que réalisateur, c'est tout à fait discutable parce que, en gros, il a quand même une famille de cinéma, je pense notamment aux frères Cohen, par exemple. Et il essaye de refaire en fait ce genre de film par moment. Hein. Son premier film, c'était ça, Confession d'un homme dangereux. C'était clairement du sous Frère Cohen, mais c'est tout le problème. C'est
Suburbicon, surtout.
Alors, je l'ai pas vu.
Suburbicon, c'était clairement ça.
Je l'ai pas vu, mais même Good Night and Good Luck, c'était un peu ce genre de logique-là, quoi. Et en fait, donc c'est un réalisateur qui, pour moi, manque totalement de personnalité. Et on en arrive à Minuit dans l'univers, où c'est d'autant plus flagrant que, certes, alors je n'ai pas lu le roman. Qui est peut-être un très bon roman, hein, mais c'est un film surtout qui, au final, raconte très très peu de choses et le raconte très très mal. C'est-à-dire que, alors moi, le premier truc, en fait, c'est-à-dire au bout de 5 minutes, hein, je me suis vraiment dit, oh putain, ça y est, c'est mal barré. Alors ça va peut-être pas plaire aux auditeurs, mais en fait, quand j'ai vu les espèces de filtres Instagram sur chaque plan, si tu veux, pour mettre des petits flous. Pour faire genre Denis Villeneuve dans Premier Contact, tu vois, ce qui est déjà pour moi pas du tout la référence à avoir en SF. Si je me suis dit, waouh, c'est ah non, on va pas y arriver là, tu vois. Et l'autre point, c'est qu'il y a beaucoup de choses. En fait, si tu veux, il y a beaucoup de points discutables. Alors moi, je pense qu'on va spoiler complètement le film. Hein,
Je pense que ce n'est pas un mystère. Oui, on va complètement spoiler ce film.
Donc voyez-le quand même si ça vous intéresse. Mais il y a beaucoup de règles, on va dire, de mise en scène qui sont complètement dépassées. C'est-à-dire que dès le début du film, en fait, il se retrouve seul, en fait, donc dans sa station, et il y a une gamine qui apparaît. Et cette gamine, en fait, elle est mutique, c'est-à-dire elle lui parle pas. C'est même un ressort, en fait, dramatique, puisqu'il lui pose la question, et puis à un moment donné, elle lui sort une phrase qui, je crois, en plus, est dans un rêve, finalement. Voilà. Et tout ça pour t'expliquer à la fin, finalement, que tout ça, c'est un fragment de son esprit. Alors, c'est un fragment de son esprit parce que, en fait, ça connecte au reste du récit. Quoi.
Et oui, je vous laisserai éventuellement... dans sa tête.
Voilà, je vous laisse éventuellement spoiler, mais rien que ça, déjà, t'as énormément en fait, de trucs où c'est censé être, on va dire, un ressort dramatique final, un twist, qui, si tu rembobines un tout petit peu dans le récit, en fait, ne fonctionne pas du tout. C'est-à-dire qu'en gros, à quoi servent ces plans, par exemple, si tu veux, quand ils trouvent ils partent finalement dans le grand nord, enfin dans le grand froid, pour comment dire, pas le grand nord, mais le grand froid.
Pour changer de station.
Voilà, pour trouver une station pour pouvoir finalement
communiquer avec le vaisseau spatial. Ils sont dans une première base qui a une antenne qui est pas assez puissante et donc ils doivent déménager et ils traversent une partie de l'Arctique rejoindre cette seconde base.
Merci. Tu sais très bien, c'est génial. Tu arrives à résumer exactement ce que j'arrive jamais à résumer. Et je suis sûr que les gens, en fait, quand ils voient les films, ils connectent. Mais bon, ouais, bref, tu vois, effectivement, quand t'as pas vu le film, tu t'es complètement perdu dans ce que je raconte. Mais bref, le truc, c'est il se trouve que il se retrouve en fait devant les survivants d'un crash et la gamine se retrouve à regarder en fait un plan et en fait on insiste sur ça alors qu'elle est toute seule dans son coin, si tu veux, quand Clooney est en train de faire autre chose pour voir un des Maccabées en fait une des personnes qui est décédée dans le crash. Et là tu te dis, ça sert à quoi?
Ben, ça sert pour moi, c'est pour le coup. Il y a une explication claire là-dessus. C'est une des personas en fait du personnage de Clooney. Et cette petite fille, c'est l'horreur qu'il a pas envie de voir là et qui va chasser. C'est à partir du moment où il la chasse qu'il arrive à achever le mec.
C'est la gamine.
Oui, bien sûr. Mais ça fait partie de la psyché, en fait, de George Clooney. Donc, ouais, à partir de là, elle a un sens. Enfin, le film est hyper pauvre.
La problématique, c'est qu'il l'a vu, pour le coup, Clooney, ça. Contrairement, et justement, il lui dit à la gamine, ne regarde pas.
Oui, justement, il refoule cette partie-là de sa personnalité pour pouvoir, justement, désinguer le mec.
D'accord, ok.
Donc si, ça a un sens. Enfin, j'ai pas cherché grand-chose, là.
Mais moi, c'est surtout qu'en fait, la problématique, si tu veux, c'est qu'on traite... Pour moi, c'était plus une manière d'essayer d'ancrer le personnage dans une réalité, c'est-à-dire que ce personnage existe, si tu veux, même s'il est mutique.
C'est les deux, quoi, du coup.
S'il est mutique, mais en fait, dans la logique des choses, il aurait, pour le coup, ça aurait pu être... Alors, c'est peut-être dans le roman, hein, j'en sais rien. Mais en fait, c'est un personnage qui aurait pu totalement parler. Si tu veux, il n'y a aucune raison
de le
rendre
mutique. Non, parce que là aussi, il y a un sens.
Bah, je trouve pas tant que ça, en fait, justement.
Il y a un sens, il y a un problème du film.
Bah, bien sûr, c'est un truc d'absence de communication avec sa gamine, et c'est le truc
Sauf que comme c'est dans sa tête, il peut parfaitement... Ah oui, bon, d'accord.
Bah, bien sûr.
Le fait qu'en vrai, il ne lui a jamais parlé à sa fille.
Oui, d'accord.
Donc,
c'est ça, bah, vous êtes plus malin que moi, en fait, c'est un grand film. mais globalement, en fait, si tu veux, il y a tous ces trucs où quand tu rembobines, on va dire, pour moi, en fait, c'est plus des problématiques d'essayer de... Et c'est un twist qui n'a pas grand sens, on va dire, dans le récit. Vas-y.
Bah, souvent, dans les films où il y a un twist comme ça, et en fait, c'était sa fille depuis le début, on se repasse les moments clés dans sa tête en se disant « Ah oui, mais là, c'était très malin. » Et en fait, à aucun moment, moi, j'ai ressenti ça. Quand il y a le twist au final, ouais, je me suis pas dit ah oui là ils avaient laissé les indices là.
Parce que c'est pas parce que tu le grilles tout de suite en fait.
Ouais.
Enfin vous l'avez pas vu venir vous le twist. Si. Enfin je sais pas, je trouve que tu le vois venir mais hyper vite.
L'autre problème c'est que en fait tu le vois. Enfin après il faut se poser la question de à quoi sert ce personnage si tu veux et vis-à-vis de ce que j'entends par là l'autre grande partie du film qui est en fait donc t'as une partie dans l'Arctique et t'as la partie dans l'espace et effectivement en fait les deux personnages sont connectés mais le problème c'est qu'en fait est-ce que vous avez grillé forcément ça. Moi j'ai pas forcément grillé cette logique là c'est-à-dire que du coup en fait c'est même pas une question de me demander si le personnage existe ou existe pas, tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, t'arrives à un stade où tu t'en fous. Littéralement,
oui.
C'est-à-dire que...
C'est un autre problème.
En fait, tout l'objectif de ce personnage-là, c'est justement de faire le lien entre ce qui se passe sur Terre et ce qui se passe dans l'espace, mais en fait, ça fonctionne pas.
Puisque le lien, il existe déjà. Même si toi, tu le sais pas.
Ouais.
Parce qu'à partir du moment où on te raconte le passif, en fait, du personnage de Clooney, tu vois, ce qui est déjà, moi, j'ai mis un peu de temps à comprendre que c'était Clooney jeune, tu vois, le mec et tout, quoi. Mais ça, c'est un autre problème, on va dire. C'est un autre
c'est
truc.
Parce que nous, on l'a connu. Je...
Ouais, voilà, c'est ça, mais à la limite, voilà. Mais cette espèce de truc, voilà. Et alors, l'autre problématique pour moi, c'est-à-dire la problématique dans l'espace, c'est une problématique de ton, mais complètement. Alors, je sais pas si ça vous a fait ça, vous. Mais moi, en fait, complètement. Alors, c'est-à-dire, t'as une scène où d'un seul coup, ils se mettent à danser dans l'espace et à chanter. Et tu fais, d'accord, donc là, on est dans un Disney bas du front. Ensuite, en fait, si tu veux, t'as une pluie de météorites, ce qui veut dire que... C'est-à-dire que Clooney serait un réalisateur, on va dire, qui arrive à manier le ce qui, pour moi, n'a jamais été le cas. Hein. Dans les films précédents, c'était pas le cas du tout. Ça serait quelqu'un qui arrive à manier la rupture de ton. Je dirais, bon, bah, c'est courageux d'essayer de faire ça. Mais en fait, il te fait une espèce de scène moi, ce que j'appelle de comment dire, d'ahuri, quoi. C'était cette scène où ils se mettent à chanter et danser dans l'espace, là. Pour ensuite mettre une scène de tension avec, une pluie de météorites, tu vois. Pour ensuite te mettre un truc où ils font des blagues. Pour ensuite te mettre, en fait, si tu veux, un truc où un des personnages a finalement été touché. Et du coup, en fait, t'es en train de regarder ça et tu te dis, mais vous voulez aller où, en fait, dans le ton, dans ce que vous voulez véhiculer, en fait, comme émotion au spectateur. Et en soi, je veux dire, il fallait choisir. Il y a une scène, en fait, qui aurait pu fonctionner, ce qui est, à mon avis, la scène, justement, de comment on va essayer de sauver le personnage qui a été blessé, où là, on aurait pu peut-être faire quelque chose, une vraie scène de SF, une vraie scène de... Voilà. Mais en fait, déjà, elle est tellement pas amenée, du coup, je trouve, dans le récit, que... Voilà. Et puis surtout, au final, encore une fois, dans le grand tout du film, à quoi ça sert ? Tu vois,
Alors, je sais pas si vous avez eu cette impression-là, mais moi, toutes les scènes d'espace dans le film, j'ai eu l'impression de voir des copier-coller ratés, en général, d'autres films d'espace que j'ai appréciés. Moi, j'ai retrouvé du Gravity, du Interstellar, du Apollo 13.
Gravity, surtout, moi, je trouve. Ouais.
Cette sortie à l'extérieur où il y a une pluie de météorites qui touche toute l'équipe, pour moi, c'est du copier-coller de Gravity en moins bien.
En largement moins bien, ouais.
Mais c'est la même scène, avec la même tension au même moment, où tu te dis à quel moment tu vas aller danser et chanter et réparer des trucs, alors que tu sais que tu as des astéroïdes qui sont en train de t'arriver sur la gueule.
Mais en fait, le truc, si tu veux, c'est que tu pointes du doigt un truc qui est intéressant, je pense, et qui est que en fait, Clooney, en tant qu'acteur,
En fait, il va vers des cinéastes de qualité, tu vois. Et d'ailleurs, lui-même l'a dit, hein, par contre, qu'il avait détesté tourner Gravity, qu'il avait été beaucoup trop... c'était beaucoup trop rigide, en fait, comme tournage. Mais bon, preuve en est qu'il s'en resserre, quoi. C'est-à-dire que, comme il le fait avec les frères Cohen, comme il le fait avec pas mal de réalisateurs, en fait, finalement, avec lesquels il a tourné, sauf Joel Schumacher, hein, Julien. Apparemment, il ne l'a pas cité, quoi. Mais voilà, donc, en fait... Et finalement, pour un résultat totalement tiède, morne... inodore, incolore, en fait, voilà, il y a même, je veux dire, le seul truc que je pourrais éventuellement, moi personnellement, ressortir un petit peu du film à un ou deux moments, c'est la musique de Desplat. Mais en fait, même là, dans le récit, je la trouve pas forcément, c'est-à-dire forcément mise en valeur. Il faudrait écouter à part pour voir ce que ça vaut. Mais c'est plutôt un bon compositeur. Quelqu'un qui sait jouer un petit peu sur l'émotion et tout. Et là, en fait, bah, c'est le seul truc où, à un moment donné, où, ici et là, je me suis dit, ah, tiens, ça, c'est... Effectivement, je... Mais parce que même, mon esprit était en train de divaguer ailleurs, quoi. Julien est très muet, en
ouais,
fait.
Oui, Julien, tu es très silencieux.
J'attends mon tour, moi, je suis poli.
Bah, tu peux, tu sais, tu veux te signaler avec un sonore de ton téléphone, toi, hein.
Donc, c'est mon tour. Clément, j'ai le droit de parler. Stéphane, tu m'autorises ?
Tu as le droit.
Non, moi, ce qui me... Je crois que je peux commencer par là, en fait, ce sera le plus efficace. Ce qui m'étonne énormément, moi, de ce film, c'est que c'est un film qui prend beaucoup de... qui fait beaucoup de circonvolutions narratives. C'est-à-dire, c'est un truc qui est... le récit est explosé dans le temps, explosé dans l'espace. C'est-à-dire que t'as deux narrations en parallèle, une narration qui est sur une expédition spatiale et un autre qui est sur une expédition terrestre. Donc tu vois très bien là où il y aurait pu y avoir des renvois, c'est-à-dire le survival, on va dire spatial et survival terrestre. Qui n'existent pas au final, hein, d'ailleurs, ou très très peu. Et ça, c'est dommage parce que je pense qu'il y aurait eu un truc intéressant à créer là. Donc voilà, donc tu as déjà deux récits comme ça en parallèle. Et à l'intérieur de ces récits, tu as toute une logique de rêve, de personnages qui rêvent, donc des fausses pistes comme ça, qui sont essaimées à l'intérieur du récit. Et à l'intérieur de ces deux récits, alors quasiment pas par contre dans l'expédition spatiale, mais alors beaucoup dans la section terrestre, tu as un récit aussi qui est dont la chronologie est cassée, c'est-à-dire que tu vois ce qui s'est passé dans le passé de façon comme ça morcelée à l'intérieur. Tout ça agrémenté avec un personnage donc qui est celui de Clooney, qui donc a un être qui est une émanation de sa psyché. Donc tu te dis putain le bordel, laisse tomber quoi sur la narration et tout, mais c'est le truc, c'est fausse piste sur fausse piste sur fausse piste. Pour toi normalement tu devrais être tout perdu en permanence. Or c'est pas que t'es pas tout perdu quoi que ce soit, c'est que, alors moi je sais pas si ça vous a fait ça, mais tu sens mais tout arriver sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, c'est hallucinant. C'est-à-dire que t'as un début de scène, une fois que t'as compris cette séquence, ce qu'elle est, tu te dis bon, elle va terminer comme ça, et elle termine comme ça à chaque fois, et une fois que t'as un autre truc, elle termine comme ça, et puis tu vois tel personnage est planté comme ça. Par exemple, il y a une des cosmonautes en fait de l'expédition spatiale et tout. Tu vois un truc où elle est projetée dans un truc holographique en fait, où il y a des échanges avec son... Donc t'es attaché parce qu'elle est un peu fragile, elle est touchante et tout. Tu dis bon elle va passer à la casserole, c'est sûr. Eh ben, elle passe à la casserole, elle meurt avant la fin du film. Et tout est comme ça. Et en fait la question c'est pourquoi en fait. Pourquoi ce mec qui fait un truc comme ça, qui est complètement explosé, où tu devrais plus savoir comment tu t'appelles quand tu regardes le film, pourquoi il te fait un truc mais qui est aussi cousu de fil blanc? Et je pense que la vraie problématique, mais ça Stéphane et Clémence, vous en avez déjà parlé tous les deux, c'est que je pense qu'il a... C'est ça qui est terrible chez Clooney, c'est que je pense que c'est quelqu'un qui travaille, je pense que c'est quelqu'un qui a à cœur de faire les films qu'il fait, mais je pense que c'est quelqu'un qui manque... Mais alors, totalement de personnalité, et ça depuis son premier film, hein, dans tous ses films, il essaye, hein, mais il n'a aucune personnalité. C'est complètement fan. Et le truc qui est dramatique, c'est qu'il n'a rien à dire, je crois. Ce mec n'a rien à dire. C'est-à-dire qu'il essaye de vouloir dire des trucs. Là, en l'occurrence, il essaye de dire des trucs importants sur l'humanité, tout
l'espoir.
Ça. Mais alors, mais mon Dieu, mais qu'avons-nous fait? Mais mon Dieu, où allons-nous? Mais au fond, voilà ce qui se passe. Mais en fait, non. C'est, enfin, je veux dire, c'est des que la palissade sur la palissade, des banalités à n'en plus finir. Et c'est terrible. Et même dans les détails en fait de mise en scène, c'est hallucinant de voir à quel point. Steph, il parlait des filtres Instagram, mais moi, c'est encore, enfin, je trouve que c'est encore plus loin que ça. C'est à quel point tout est éculé. Par exemple, il y a une scène où il tombe sous la glace, le personnage de Clooney et tout. Et au début, il tombe sous la glace. Je me dis, putain, c'est sûr, on va avoir le plan large. avec sa motoneige là qui sombre dans le truc avec la lumière et lui qui essaye de la choper. Tu sais, ce dessin de pré-production que t'as vu dans tous les art of, que t'as vu je sais pas combien de films cette fois. Bah paf, ça a pas loupé, le mec il te le file quoi. Et tout est à la fin.
Oui, sauf que justement, c'est ce que je disais, enfin, problématique de ton, c'est-à-dire que alors déjà, t'as raison de dire qu'effectivement, de quoi ça parle. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quand même de la SF. Donc, t'es censé tirer quand même des grands thèmes. Si tu veux, donc, on va dire là, la solitude, l'écologie,
la
capacité à communiquer,
l'espoir, blablabla, le voilà, renouveau, tu vois.
Et tout ça, en fait, si tu veux, en fait, c'est des couches en fait empilées les unes sur les autres, mais qui globalement servent à rien parce que en fait, si tu veux, la solitude de Clooney, bon, ben en fait, si tu veux, c'est quatre plans au début, il est en train de bouffer tout seul ses céréales, tu vois.
Et à la limite, ces plans-là sont très bien.
Oui, encore une fois, avec des filtres Instagram, tu vois, pour moi, c'est ça le truc, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment, alors c'est Clooney qui a la tête dans le cul, donc en fait, t'as un plan comme ça, et puis il y a un flou, tu vois. Enfin, c'est que des trucs comme ça. Et ensuite, alors il y a le grand reveal, c'est-à-dire que pour moi, ça devient presque, ça prend carrément, c'est un cas d'école, hein, en fait, tellement c'est pas filmé quelque part, si tu veux. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux regarder le film, il a son petit, cadre à la Netflix, tu vois, j'allais dire à Twitter, n'importe quoi, à la Netflix, tu vois, la jolie petite lumière qui va bien, tu vois, en 4K, blablabla, tu vois. Mais globalement, t'as ce truc quand même où t'as Clooney, donc qui va essayer de maintenir un lien de communication pour leur expliquer que, attention, sur Terre, c'est la merde. Sauf qu'en fait, t'as un plan où quand ils finissent par tomber sur la Terre, tu vois, t'as un plan où tu vois, on voit bien que la Terre, elle est complètement, tu vois. Et là, tu te dis, putain, non seulement ça, c'est pas mis en scène, mais surtout, une fois que t'as vu ce plan-là, tu te dis, en fait, ça sert absolument à rien ce qu'il fait Clooney, puisqu'en fait, ils vont le voir, tu vois, que c'est le bordel sur la Terre, qu'ils vont se poser des questions. Donc le truc, si tu veux, c'est que, enfin, de loin, évidemment, mais ce que j'entends par là, si tu veux, c'est que forcément, t'es astronaute, tu es parti, la Terre ressemble à un truc, tu reviens, elle ressemble à
moi,
ça.
Je suis plus gêné sur des logiques de DA que je trouve débiles, en fait. Et je trouve que ça, c'est là où, en fait, il est ridicule, c'est-à-dire que...
Ces questions, je me les poserais pas, en fait, si j'étais dans le cœur émotionnel du truc, c'est ça aussi la problématique.
Ouais, il n'y a pas de joker. Voilà. Non, mais c'est plus anecdotique hein, ce que je voulais dire. Mais c'est vrai que moi, par exemple, ce plus que les filtres Instagram, moi, c'est le design du vaisseau. Moi, ça m'a saoulé. Quoi. Ouais. Il y a un truc où à un moment, on te fait comprendre qu'il y a une imprimante 3D à bord et que donc, oui, alors ça, il y a une logique. Mais ces structures hein, qui évoquent un peu l'arnouille, en fait, qui sont censées faire la structure, en fait, du vaisseau. Alors, j'imagine bien qu'au niveau de la théorie, le mec, il s'est dit, non, mais il y a un truc hyper organique, c'est comme des espèces d'eau, et c'est un peu comme s'ils étaient à l'intérieur d'une une sorte de cocon et tout. Mais ça, moi, je l'achète jamais, moi, ce truc. Et ça fait un peu partie du reste du film, en fait. C'est un peu édifiant du reste. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de postures là-dedans. C'est-à-dire de « on va faire comme ». Mais en fait, quand tu arrives à l'os, quand tu arrives au truc au final, tu dis mais non, ça marche pas. Enfin, tu vois, ça n'a pas, il y a pas de logique en fait interne là-dedans. Quoi. Moi, je retiendrai pour dire à quel point j'ai pas aimé le film. D'ailleurs, je retiendrai. Il y a un truc que j'ai bien aimé, qui est une toute petite idée très très courte puisqu'on décide de spoiler, qui est donc ce personnage de cosmonaute en fait ou spationaute, je sais jamais. Ça, à mon avis.
En français, c'est astronaute.
Astronaute, ouais, parce que je me suis dans les commentaires, ça, les mecs, ils vont pas me louper, quoi. Et vous ne me louperez pas et c'est pas gentil. Mais c'est pas ça, c'est pas grave. Mais en fait, quand elle meurt, en fait, il y a une idée que j'aime bien, qui est le truc quand ils enlèvent son casque, il y a beaucoup de sang en fait qui sort d'un seul coup. Parce que tout est
retourné. En apesanteur.
Ouais, en apesanteur, voilà. Et après, il y a des gouttes de sang partout et tout. Alors, je trouve ça hyper dommage parce qu'en fait, là, c'est pareil. C'est là où tu vois qu'il y a un vrai problème de positionnement de réalisateur et d'objectif de réalisation. C'est que je ne comprends pas la finalité des mecs. Je ne comprends pas ce qui fait qu'ils vont réussir à la sauver ou pas. C'est-à-dire que j'ai l'impression que les autres sont en train de s'exciter autour d'elle, mais tu n'as pas l'impression qu'ils sont en train de la soigner, qu'il faut faire un garrot. Tu ne comprends pas en fait ce qui se passe. Et là, tu dis, où est le réel, quoi. Là, vraiment, ça fait... Mais par contre, c'est dommage parce que je trouve que, d'une part, c'est pas violemment graphique, c'est pas gore, c'est-à-dire, mais par contre, c'est hyper graphique et ça marche super bien. C'est-à-dire que d'un seul coup, tu te dis, ah, elle souffre. tu comprends tout de suite l'urgence de la situation et l'urgence a continué à planer littéralement dans l'espace des personnages. Et je me dis, putain, ça c'est une super idée de mise en scène. Je suis dégoûté que ce soit pas bien exploité parce que l'action, encore une fois, des personnages n'a pas de sens dedans. Mais c'est dommage parce que je trouve que là, ça fait partie des rares moments où je me suis dit, il a ce qu'il n'est pas ailleurs. Et je suis désolé pour lui, hein, parce que je pense que fondamentalement, c'est vraiment le problème. Il n'est pas inspiré et c'est le seul moment où il est inspiré, en fait, Clooney, quoi.
Mais tu dis quelque chose d'intéressant, le fait que l'action des personnages n'a pas de sens. Les personnages, de manière générale, à part le personnage de Clooney, enfin l'équipage n'existe pas. Ils n'ont pas de personnalité, ils n'ont pas de background.
Mais bah si, ils essayent, tu vois, le personnage. Sais,
c'est vraiment
de l'autre qui veut organiser sa famille. Donc t'as elle qui est avec.
C'est brossé de manière ultra rapide et à aucun moment. Alors,
mais c'est parce qu'elle
est enceinte et ça n'a absolument aucun, ça n'a rien à voir avec l'histoire. Il voulait absolument Felicity Jones comme actrice pour jouer dans le film. Il a dit, elle est enceinte, c'est pas grave, on se débrouille, on va ajouter une ligne là-dedans. Mais voilà. Alors qu'ils auraient pu l'exploiter, ils auraient pu en faire quelque chose. Ouais. Il y a une histoire de filiation. Elle-même, elle attend un enfant, elle va repeupler du coup.
Mais en fait, elle attend un enfant avec un membre de l'équipage.
Oui, c'est ça,
avec un membre de l'équipage. Il y avait quelque chose d'hyper intéressant à traiter.
Mais ce qui est tellement pas flagrant en fait, parce que moi, tiens, en vrai, je me suis dit, mais attends, mais c'est qui le père? Donc c'est le mec qui l'abandonne dans son rêve au début. Et, oui, d'accord, sauf qu'en fait, si tu veux, donc, c'est dressé dans un rêve. Elle se réveille, elle lui fait « toi, je te fais la gueule ». Donc tu dis « bon, il y a un problème entre eux ». Ok, apparemment, tu vois, malgré le fait que voilà, elle est enceinte et
non,
tout.
Non, c'est une blague.
Alors c'est une blague, sauf qu'en fait, tu regardes le plan final du film où en fait ils se parlent pas.
Mais parce qu'ils bossent.
Mais oui, mais
ah bah j'aime pas mal ce final.
Mais moi, à un moment donné, t'as envie de dire.
Peut-être parce que le film était terminé.
Moi, j'aimerais bien juste pour ne serait-ce que pour avoir un petit. Et là, moi, je te rejoins justement en fait sur ce que tu dis, Clémence. C'est-à-dire que oui, en fait, il essaye, mais il essaye pas. C'est-à-dire qu'en fait, il essaye sur le papier. Il y a deux lignes qui sont écrites. Alors lui, là, sa famille, elle est là-bas, donc il veut rentrer. Lui, en fait, il en a plus rien à foutre, donc il veut rentrer avec lui. Et en fait, le problème, c'est qu'il ne sait pas émotionnellement. Moi, je suis désolé, tu me mets une femme enceinte dans l'espace, elle sort dehors, tu poses au moins la question à un des persos qui arrive, qui dit, t'es sûr, tu vas y aller, tu fais attention. C'est, je ne sais pas, quelque chose, en fait, pour...
Mais c'est ça, vois,
elle répond, elle dit oui, non.
À aucun moment, c'est un enjeu.
Voilà, c'est pas un enjeu. Émotionnellement parlant, t'as l'impression qu'en fait, c'est deux autistes qui sont en train de se regarder dans le blanc des yeux. À la limite, tu te demandes comment ils ont fait pour avoir un enfant. Tu vois, donc en fait, c'est-à-dire qu'arrivé à ce stade-là, tu te dis, putain, moi, j'aimerais bien juste une connexion de chair et de sang, quoi, quelque chose, tu vois, quelque chose de d'incarné, tu vois.
Ce qui est terrible, c'est qu'il... Bah, pardon, vas-y.
Et c'est tout le problème, c'est-à-dire que moi, pour moi, en fait, quand tu parles de tout le récit, si tu veux, qui part dans tous les sens, etc., etc., je te rejoins là-dessus, mais en fait, pour moi, c'est une espèce de volontaire. Encore une fois, c'est peut-être dans le roman, hein, je sais pas, tu vois, mais pour moi, la référence là-dedans, et encore une fois, c'est pour moi une très mauvaise référence, je déteste ce film, mais la référence, c'est Premier Contact.
Non, mais ça fait partie. C'est-à-dire
que ça fait partie des trucs où le mec, en fait, d'un seul coup, on te twiste le truc à la fin pour t'expliquer que. Et en fait, c'est la même logique. Et voilà pourquoi on revient dans le passé. Voilà pourquoi on t'explique tous ces trucs. Mais après, et visuellement, il y a aussi un lien entre les deux films, quoi. Mais déjà, pour moi, Premier Contact, j'étais littéralement laissé à la porte d'entrée du film. C'est-à-dire que vraiment, en fait, je me disais, je, émotionnellement, je marche pas du tout dedans, quoi. Et là, c'est exactement, c'est puissance 1000, quoi. C'est encore plus problématique, quoi, parce qu'il y a même pas, on va dire, un twist. C'est même pas un twist, je trouve, comment dire, qui utilise la science-fiction, la logique de science-fiction pour créer ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça pourrait être fondamentalement, ça pourrait être ne pas être un récit de science-fiction, ça serait le même twist. Donc du coup, c'est voilà. Enfin, pour moi, c'est un film qui je pense que Clooney, il avait pas vraiment. C'est pas son univers déjà. Je pense que c'est pas son genre.
C'était son premier film de SF. Hein.
Oui, oui, probablement son seul.
Mais quel est son univers en fait? C'est ça la question. Hein. Je pense que c'est un mec qui prend pas les risques là où il faut aussi. Je pense que ça aussi, c'est-à-dire qu'il casse pas les trucs. Je sais pas comment le dire, quoi, mais finalement aussi, je pense que pour que des personnages ou un univers vivent, il faut qu'ils te surprennent au bout d'un moment. C'est aussi, encore une fois, c'est là où le truc de Cousé Fil Blanc, pour moi, c'est vraiment un problème. C'est pas que j'attends d'être surpris. C'est que je pense qu'à partir du moment où t'es surpris ou t'es étonné sur un truc, mais que c'est cohérent quand même par rapport au personnage, là, le personnage, il commence à vivre parce qu'il commence à t'échapper, en fait, et que tu commences à le voir se créer là. Si tu sais tout ce qui va lui arriver derrière, ça reste un personnage de cinéma parce que c'est un cliché, c'est un archétype, c'est quelque chose que t'as déjà vu avant. Mais là, comme il est sur des routes ultra, ultra, ultra balisées à tous les niveaux, tout le temps, c'est des coquilles vides, en fait. Si tu continues à avoir des archétypes jusqu'à la fin, jusqu'à ce final qui est téléphoné, que tu vois pas. Donc, tu allais me demander si je reste sur Cucurbitacé. Et oui, Clément, je reste sur Clément, car Georges Clooney est un cornichon.
Georges Clooney est un cornichon.
Pas mal, hein.
Wow, à noter qu'il a quand même pris un risque sur un plan, c'est sur le plan de la santé, parce que donc, le personnage qui joue dans le film est très malade, et pour l'incarner, il a perdu 12 kilos, ça a déclenché une pancréatite, il a été hospitalisé pendant 4 jours pendant le tournage.
Non, mais je pense que c'est un mec qui bosse. Hein. Donc, franchement, je le pense. Moi, je pense qu'il est intègre quelque part vis-à-vis de cette...
Oui, après, moi, quand
il
je...
se donne à
ouais,
fond.
C'est sûr, mais j'en suis sûr, moi. Mais après, bon, mais... voilà. Après, est-ce qu'il prend le truc par le bon bout et...
Ce qui est étonnant, en fait,
t'as l'impression de voir un petit gamin riche qui essaye de faire son artiste. Quand même.
Ouais.
C'est assez terrible, quoi.
Finalement, est-ce que ça repose pas la question qu'on se posait déjà quand on a parlé de Mank, hein, qui est Netflix. Ce ne sont pas des producteurs au sens éditorial. Mmh. Hein. Ils sont diffuseurs de contenu. Et en fait, ils vont donner carte blanche à des réals qui, derrière, font ce qu'ils veulent. Et c'était un budget à 100 millions de dollars, ce film. Donc, c'était pas non plus des petits moyens. Ils auraient ouais, là, pu faire
je veux dire, on parle pas de. Enfin, moi, j'adore Mank en plus, mais on parle pas en plus d'un gars qui a réussi auparavant. Je veux dire, pour moi, ce film-là, il est dans la droite lignée de ce qu'il a fait avant, Clooney. Et je trouve que le film est pas plus difficile à regarder que Suburbicon n'était difficile à regarder. Donc bon. Si, c'est peut-être un peu pire, quoi, si tu veux, quoi. Mais non, je pense que c'est, pour le coup, je suis pas du tout d'accord, je pense pas que ce soit une problématique de producteur. Je pense qu'il y a un problème là-dessus sur Netflix, ça c'est vrai, qui est discutable, parce qu'il y a quand même des trucs comme Roma ou des choses comme ça, mais par contre, il y a...
Oui,
mais
Roma, ça a été acheté.
Oui, mais comme beaucoup, alors, si tu parles de ce principe-là. Mais là, pour le coup, non. Enfin, encore une fois, c'est pour moi une problématique liée au cinéaste lui-même. Et pas
moi,
ce support-là.
Je pense aussi, mais par contre, en fait, je trouve ça étonnant qu'il se pose pas la question. C'est-à-dire qu'en fait, au-delà de la logique de l'algorithme, hein, c'est-à-dire film de SF avec George Clooney,
qui sort à Noël,
blablabla, tu vois. Je m'étonne en fait. Le film, il s'est fait défoncer. Hein, la critique, je sais pas, mais par contre, tous les retours des spectateurs aussi, en général, sont assez négatifs. On va voir ce que nos auditeurs en pensent. Mais le truc, c'est que je trouve ça du coup étonnant qu'ils n'aient pas conscience en fait que finalement en fait est-ce qu'on doit en faire notre gros blockbuster de la fin de l'année, quoi, parce que t'as Mank pour l'aspect on va dire si on suit la logique, hein, de comment on diffuse ces œuvres là, t'as Mank qui fait partie on va dire du catalogue classe Oscar machin etc éventuellement, hein, dans leur logique à eux, et t'as ce gros blockbuster, et en fait pour le coup je trouve que c'est un pari, quand tu regardes la qualité du film, qui n'est pas du tout payant. J'ai l'impression que c'est un film qui va complètement disparaître, à moins qu'ils le remettent en avant de manière générale. J'ai l'impression que c'est un film qui va complètement disparaître dans les limbes de Netflix, parce que il y aura pas de bouche à oreille, parce qu'il n'y a pas d'intérêt. Même il y a des très mauvais films, hein, qui ont cartonné sur Netflix, quoi, mais parce que apparemment les gens appréciaient vraiment le truc. Le truc où il y a des oiseaux. Le film avec Sandra Bullock, c'était un carton. Ce genre de truc, il paraît que c'est très mauvais. Moi, je ne l'ai pas vu, mais il paraît que c'est très mauvais. Et malgré tout, c'est un carton. Là, apparemment, ce n'est pas garanti, quoi. C'est ça qui est bon. Voilà. Après, dans leur logique à eux, ils peuvent lâcher 100 millions sans trop de problèmes. De toute façon, ils sont endettés à 25 milliards. Donc, 100 millions de plus ou de moins, je pense que ce n'est pas ça qui va les... Voilà, quoi. Et Clooney, Clooney, c'est ce que je dis, quoi. C'est-à-dire que voilà, enfin, quand tu regardes, là, on a parlé des trucs, mais on parlait des frères Coen, mais il y a aussi Soderbergh. Je veux dire, il a emprunté tellement de trucs à Soderbergh dans Confession d'un homme dangereux. Il y a un projet entier, en fait, que Soderbergh devait réaliser juste après Hors d'atteinte, qui finalement est devenu Leatherhead, là, son truc de football américain dans les années 30. C'est tout un tas de trucs comme ça où, oui, en fait, il se fantasme comme réalisateur, Clooney, et il en a fait quelques-uns, parce qu'il a ce star power, on va dire. Moi, je pense qu'il a arrêté de tourner aussi parce que il y a eu quand même un très, très gros bide, hein, qui est celui de Tomorrowland. Hein. Et je pense que ça affecte une star comme lui, en fait, à un moment donné. C'est aussi pour ça qu'il a...
Oui, mais c'est le moment où ils choisissent la facilité, c'est le moment où ils vont vers la grosse franchise, hein, Stéphane. Hein,
oui, certes, mais là, lui, il s'est peut-être dit, je vais arrêter. Donc oui, on peut considérer que c'est tout à son honneur. Moi, je pense qu'il s'est bien fait financer par Nespresso, mais bon, voilà, tu vois, mais c'est autre chose. Après, il fait ce qu'il veut, mais... Donc voilà, moi, je disons qu'en tant que réal, ouais, c'est la confirmation que... Il n'a pas la personnalité suffisante en fait pour faire ça, quoi.
Très bien. Donc Minuit dans l'univers, hein, pour résumer, vous l'avez compris, on n'y va pas, ou alors on prévoit plein de Nespresso pour tenir le coup.
Ouais. Vous le regardez en 4 fois.
Si vous voulez voir un bon film post-apo de science-fiction, qu'est-ce qu'on va voir plutôt dans le classique?
Je sais pas, là, tu nous prends en débeauté.
Regardez Planète Hurlante si vous voulez voir un film de SF qui se passe dans la neige. Voilà, de Christian
Pas Duguay. Mal, ouais. Voilà. Alors, faut le trouver, par contre, maintenant, ici, celui-là.
Planète Hurlante. C'est noté. Et vous, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Vous l'avez vu, ce film, Minuit dans l'univers. Vous avez adoré. Vous trouvez Georges Clooney brillant en tant que réalisateur. Et vous tenez à nous le dire. Laissez-nous un message sur le répondeur de Capture Mag. Pour ça, il suffit de nous le laisser sur Messenger. On le diffusera dans le prochain épisode. Dans la dernière émission, on parlait de Soul, le dernier Pixar. Alors Alain, ils en ont pensé quoi, nos auditeurs?
Bonjour Clément, c'est le reste de l'équipe Capture Mag. Je viens de finir d'écouter votre podcast sur...
Tout d'abord, bonne année et bonne santé, et en espérant que 2021 soit bien prospère pour vous, car vous êtes vraiment la meilleure chaîne ciné à l'heure actuelle sur toute plateforme confondue. Pour ma part, Soul a été une grosse déception, car j'ai trouvé le film parfaitement inabouti. En fait, j'ai eu l'impression que le film contenait plusieurs ébauches de films en un seul, avec donc la partie new-yorkaise, la partie dans l'autre monde, la partie avec la réincarnation, et on pense qu'il va nous raconter quelque chose sur l'éducation, sur la famille, sur la mort, et puis finalement pas du tout. Donc voilà, j'ai un peu l'impression que le film ne sait pas exactement ce qu'il veut raconter.
Par rapport à Soul, je dois dire que c'est mon Pixar préféré pour l'instant, je pense. Ça fait 5 ans qu'il sort vraiment chef-d'œuvre sur chef-d'œuvre. J'ai trouvé que, comme le dernier Pete Docter, il a cette capacité à rendre extrêmement ludique et simple des concepts philosophiques et psychologiques parfois assez complexes. Et je trouve qu'il le fait parce qu'il est capable de les rendre concrets, de les mettre en place dans des émotions et dans des actions de ses personnages.
Je viens de finir d'écouter votre dernier épisode de Sale Temps pour un film. Encore une très très belle émission avec une mention spéciale du jury pour le klaxon du téléphone de Julien Dupuis. Concernant Soul, je vais pas aller à l'encontre du consensus, j'ai beaucoup aimé le film. Ce que je noterai, c'est que le film est assez impressionnant dans sa capacité à concilier une émotion très premier degré et très candide qui pourrait sembler anachronique alors qu'elle est absolument magnifique, avec une animation extrêmement expérimentale. Concernant l'expérience en salle, je me suis rendu compte en visionnant le film que la salle semblait limite indispensable pour découvrir le film, tant dans ses meilleurs moments, il tient de la séance de méditation transcendantale.
Pour revenir aussi sur votre invitation à regarder Monterrier, j'avoue là aussi avoir été extrêmement déçu par ce format court. J'étais extrêmement enjoué par l'idée d'avoir enfin un retour à l'animation traditionnelle. Le seul problème, c'est que j'ai trouvé que techniquement, le style graphique était très pauvre.
C'est Frédéric de Montréal. Je voulais revenir sur le podcast sur Soul avec deux petites réflexions. La première, le nom du protagoniste principal, Joe Gardner. Gardner avec un E en moins, en anglais, ça ferait Gardener, c'est-à-dire le jardinier. Et celui qui est peut-être là aussi pour révéler les vocations des autres et les faire grandir.
Félicitations pour le travail que vous accomplissez depuis maintenant plusieurs années au travers de vos interventions dans Opération Frisson, Capture Mag, Stéroïdes, Uno Ciné. C'est ce qui a forgé ma vision du cinéma et a défini une grande, grande partie des exigences que j'ai vis-à-vis des films.
Et la deuxième chose aussi sur laquelle je voulais revenir, c'est la musique exceptionnelle de Atticus Ross et de Trent Reznor, qui vient quand même compléter un film de très haute volée cinématographique, même si parfois un poil en dessous peut-être dans l'accomplissement de Vice Versa. Mais aujourd'hui, je vois pas beaucoup de films quand même qui autant de très bonnes choses. Voilà, et ben bonne année à tous. Et à bientôt, et encore merci.
C'est le temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Stéphane.
Merci Clémence.
Merci à Julien.
Merci Clémence.
Et merci Alain. Pour suivre les prochains épisodes, rendez-vous sur Acast, SoundCloud, Spotify, Deezer, Apple Podcasts et toutes les autres plateformes. On dit également un grand merci aux auditeurs et puis merci aux tipeurs. Ce projet existe grâce à vous. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous donner un petit coup de pouce. Pour nous soutenir, vous pouvez également nous relayer sur vos réseaux sociaux préférés. On est présents sur Twitter, Instagram, YouTube et Facebook. Parlez de nous à vos amis et mettez-nous des étoiles sur les applis de podcast. On se retrouve dans une semaine. En attendant, portez-vous bien et à vendredi prochain.